Et toujours avec Nathalie Barrette en studio, notre chef recherchiste, hein, qui passe toute l'heure avec moi. C'est merveilleux. Je suis très chanceuse de t'avoir
merci.
À mes côtés.
Je suis super contente d'être avec toi.
C'est le fun.
Oh, ben, c'est ça. Nous, on a notre mission à nous d'être heureuse, d'être de bonne humeur, d'être contente d'être ensemble et puis de partager ça avec les auditeurs.
Exactement, exactement.
Alors, de beaux sujets encore aujourd'hui. J'ai l'impression que je vais dire ça tous les jours. Mais vraiment, on commence tout de suite avec notre premier invité. J'accueille tout de suite Luc Vigneault. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ah, ben très bien, je sens que vous aussi, vous allez bien, vous êtes plein d'énergie, c'est merveilleux. Alors, on parlait de votre parcours d'exception, et vous donnez beaucoup d'espoir à des gens atteints d'une maladie mentale.
Oui.
Et vous avez travaillé jour après jour toute votre vie à combattre aussi la stigmatisation et aider en même temps à la recherche. Alors vraiment, on va tout démêler ça. Et puis, d'abord, bravo aussi pour votre doctorat honoris causa. Hein. C'est la reconnaissance
merci.
À la fois de votre contribution scientifique et sociétale.
Monsieur Vigneault, d'ailleurs, vous faites partie d'un groupe select, pour ne nommer que ceux-là, Céline Dion, Pauline Marois, Guy Laliberté, Dany Laferrière, Diane Dufresne. Alors, félicitations.
Ben oui, merci. Ça fait drôle d'entendre ça, que des collègues, en guillemets, aussi célèbres.
Oui, mais comment est attribuée cette distinction-là, M. Vigneault?
Ben d'abord, j'ai envie de dire, n'obtient pas un doctorat honoris causa qui veut. Hein?
Effectivement.
Il faut que ça soit soumis par une faculté de l'université. Donc, moi, c'est la faculté de pharmacie parce entre autres, ils fêtent leurs 100 ans de fondation cette année, qui sont dit il faut marquer le pas. Donc, c'est soumis après ça à la doyenne qui soumet ça à l'Assemblée des professeurs. Hein, donc, tout le monde doit dire oui. Et là, ça s'en va d'un grand comité en haut, qui est le comité universitaire, qui est très sévère, qui a plusieurs personnes. Puis finalement, il y a un autre petit comité, puis après ça, ça atterrit sur le bureau de la rectrice, là. Et là, finalement, j'ai passé toutes les étapes haut la main qu'on m'a dit.
Bravo.
Finalement, j'ai reçu l'appel de la rectrice. J'étais très heureux, vraiment très heureux.
Bravo. Donc, c'est ça, ça a été décerné par l'Université Laval. Et puis, bon, alors, écoutez, si on commençait par le commencement, parce qu'évidemment, il y a tellement de grandes réalisations. Et d'ailleurs, je sais que vous avez, il n'y a pas si longtemps, participé à un jury de soutenance de thèse. Ça, c'est une invitation de l'Université de Bordeaux. Là. Vous avez, en tant que enfin, que personne aux prises avec des problèmes de santé mentale, vous avez été invité à être membre d'un jury là, pour une soutenance de thèse de doctorat à l'Université de Bordeaux. C'est quand même pas rien. Vous étiez accompagné de plein de spécialistes. Là.
Ben exactement. Puis, humblement, je suis le premier dans l'histoire mondiale. Là, parce que moi, j'ai un secondaire 5. Donc,
c'est fou, hein?
C'est
incroyable. C'est une première, c'est vrai.
J'ai pas pu étudier longtemps. Je voulais, mais... J'ai pas pu, j'ai finalement pas été, puis de voir aujourd'hui qu'on appelle ça hein, le savoir expérientiel,
voilà,
qui est maintenant de plus en plus reconnu par l'université, et puis à Bordeaux, Kevin McValerie, le psychologue, a dit ton savoir est l'équivalent du mien, même si moi j'ai un doctorat, et puis c'est pour ça qu'il m'a invité à sa thèse, fait que j'étais très... Très content. Puis, si on fait un petit peu de pouce, c'est le savoir expérientiel hein, au niveau clinique, c'est-à-dire quand on est dans le cabinet du médecin, là, parce que j'enseigne maintenant aux futurs médecins, hein, puis ce qu'on leur dit, c'est que vous... oui, ça fait drôle. Vous avez le savoir scientifique, mais le patient, c'est le seul expert des conséquences de la maladie sur sa vie.
Mm-hmm.
Vous devez le traiter comme un expert et non... Tu sais, le fameux paternalisme médical.
C'est ça.
Les facultés disent, ben là, c'est fini, ça.
C'est chose du passé. Effectivement, on reconnaît cette expérience-là.
Voilà.
Parce que c'est ça qui fait aussi beaucoup avancer la science en même temps.
Ben oui, exactement. Parce que dans les littératures scientifiques, c'est seulement le côté des scientifiques, justement, qui est là. Donc, tout le côté des patients, tout ce qu'ils vivent au quotidien, c'est pas dans la... Donc, ils apprenaient pas ça avant à l'école, à l'université. Donc, maintenant, ils apprennent comment ça se passe. Parce que, vous savez, on voit le médecin, mettons qu'on le voit une fois par mois, là, pour des maladies graves, mais le reste du mois, on est tout seul à la maison.
C'est ça.
Donc, avec nos familles, avec nos conjoints. Donc, on développe une expertise, on développe des connaissances, on développe des trucs. pour prendre soin de nos maladies chroniques, quelles qu'elles soient. Là.
Exactement. Et donc, on vous êtes à la fois père aidant, père P-A-I-R, aidant, et patient partenaire. Est-ce que ce sont deux choses différentes? Je pense que oui.
Oui, absolument. Bien, d'abord, les pères aidants, c'est des gens qui aident leur père, donc qui accompagnent les gens vers leur établissement. Tu sais, moi, je suis un père aidant, par exemple, à l'hôpital à Québec, là, à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Donc, quand les gens étaient hospitalisés, la première journée après l'hospitalisation, la première personne qu'ils voyaient, c'était moi, parce que je disais, tu sais, moi, j'ai déjà été à ta place. J'ai aussi été ici, puis j'avais le même sentiment de que ces cheveux-là. Un peu de honte, hein? On est en psychiatrie, il ne faut pas l'oublier. Donc,
c'est
des fois. Donc, de dire non, là, pas avoir honte, puis les gens sont ici pour t'aider, etc. Donc, je faisais le pont entre les patients et les spécialistes. Puis je m'occupais du côté plus humain, je vous dirais, là, parce que des fois, les spécialistes n'ont pas le temps d'écouter quelqu'un une heure de temps, là. Alors que
c'est devenu votre rôle.
C'est ça. Donc, c'est ça un père aidant. Un patient partenaire, ben, c'est une personne qui a les connaissances du vécu, du savoir expérientiel, qui travaille aussi dans la recherche, dans l'enseignement. Donc, par exemple, les organismes subventionnaires de subvention de recherche exigent maintenant qu'il y ait un patient partenaire sur l'équipe de recherche. Parce qu'ils se sont rendus compte que les chercheurs manquaient un gros pan de comment ça se fait que, par exemple, moi, la schizophrénie, ben avant, vous savez, on t'a condamné à vie, t'as ça, c'est fini, on t'enfermait.
D'ailleurs, vous avez été interné, c'est ça, vous l'avez souligné à plusieurs reprises, et on vous a même dit, que vous étiez fini, entre guillemets.
Oui.
Alors, imaginez. Mais il y a quand même... vous avez fait la rencontre aussi d'un médecin qui a quand même changé beaucoup les choses, Dr. Roy, entre autres, qui a été très ouvert.
Oui, exactement. Dr. Roy, avec qui je travaille aujourd'hui. J'ai d'ailleurs été père aidant avec lui sur une unité de soins. Maintenant, on fait de la recherche ensemble sur l'équipe 4 établissements. Lui est directeur scientifique. Moi, je suis... il m'appelle le capitaine d'équipe. j'amène tout le point de vue avec, j'ai d'autres collègues, Mariette et Suzanne, qui est pour la famille aussi, parce qu'il y a des patients appartenant à famille maintenant, il y a des pères aidants famille aussi, donc c'est sûr, c'est, à un moment donné, il faut démêler tout ça, parce qu'il y a aussi des proches aidants, bon...
oui, non, vous avez raison, c'est ça, on s'y perd un petit peu, mais on comprend quand même
comprend
que vous agissez auprès des gens qui sont en situation de maladies et
de
aussi
maladie,
pour à la fois les proches, mais aussi pour les médecins, pour la recherche, pour faire avancer les choses.
Faire avancer les choses aussi. Puis moi, bon, j'ai un doctorat en recherche en pharmacie, entre autres. Je suis aussi formateur pour l'Ordre des pharmaciens du Québec. Hein, donc, on fait des tournées pour démystifier la maladie mentale auprès des pharmaciens et des pharmaciennes, hein, parce qu'il y en a de plus en plus de cette clientèle-là.
Ouais.
Et les gens, dans le passé, ils n'ont pas appris vraiment à négocier avec eux. T'sais. Donc, ils ont un certain malaise. Ça.
C'était une approche théorique, finalement.
Oui, oui. Ouais. On arrive, puis on démystifie ça, on fait tomber les craintes. D'abord, ils sont les spécialistes du médicament, donc les spécialistes des effets secondaires. Donc, avant, on disait, prends tes pelules, tais-toi, puis t'as pas... Maintenant, c'est non. Maintenant, on veut savoir, parce que les premières causes d'abandon des médicaments, c'est les effets secondaires. Les troubles sexuels, polynomie, c'est la première cause. Soyez à l'écoute, on dit, soyez à l'écoute. Si quelqu'un vous en parle, parce que ça se corrige, tout ça. Hein? C'est pas une fatalité, là. Ah, peut-être c'est pas le bon médicament, peut-être la dose est trop forte, pas assez forte, peu importe. Alors, maintenant, les gens, surtout que le nouveau projet de loi 67, les pharmaciens et pharmaciennes vont devenir...
Parties prenantes,
donc voilà.
Ils vont devoir, c'est ça, parce que vous êtes vraiment devenu l'expert des conséquences de la maladie sur la vie de tous les jours. Alors, vous êtes indispensable, finalement, dans la chaîne.
De comprendre, puis de dire, ben si on a des buts communs, hein, le médecin, le pharmacien, puis le patient, ben ça fait que les gens adhèrent au traitement, puis que les gens se rétablissent, puis que ce soit schizophrénie, troubles bipolaires, etc., ben les gens se rétablissent, retournent sur le marché du travail, s'ils veulent, fondent des familles, etc. Là,
mais où avez-vous trouvé l'énergie, enfin, pour arriver à finalement défoncer des portes comme ça? Vous avez carrément défoncé les portes.
Absolument, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ben, je vous dirais, c'est drôle, c'est un peu la colère. Hein. J'étais en colère.
C'est un beau moteur, parfois, oui.
Oui. Mais si vous me permettez l'expression, une sainte colère, là, dans le sens où j'étais pas violent.
Une bonne colère.
Oui, une bonne, merci, une bonne colère. Je n'étais pas violent, là.
Mais on dit une bonne colère.
J'étais en colère. Comment ça, j'ai ça? Puis j'étais en colère à l'époque, comme vous l'avez si bien dit, on me disait, c'est fini, rien à faire. Je dis, non, c'est pas vrai. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas croire que des scientifiques puissent penser comme ça aujourd'hui, là, avec toute la science, puis toutes les découvertes qu'on fait, puis les connaissances du cerveau. Je ne peux pas croire que les gens ont baissé les bras.
Oui, parce que vous êtes la preuve vivante qu'on peut avoir une vie pleinement épanouie en dépit des troubles mentaux.
Exactement, exactement. Ça, c'est le message que je veux porter. Il y a beaucoup trop de gens qui se suicident à l'annonce d'un diagnostic dans la première année. Là. Ça, c'est des chiffres tristes, mais bon, c'est pour ça que je m'affiche en disant, écoutez, tu viens d'avoir une très mauvaise nouvelle, je n'en cacherai pas, mais on peut avoir une vie pleinement épanouie en dépit de cette maladie-là, aussitôt qu'on commence à se stabiliser, là, puis de donner partie prenante de son traitement, de collaborer avec les équipes traitantes et avec nos proches, parce qu'on se rétablit pas tout seul. Faut pas penser qu'on peut faire ça tout seul dans notre petit coin, ça fonctionne pas. Fait que faut vraiment faire un travail d'équipe ensemble. Mm-hmm.
Monsieur Vigneault, à quel âge vous avez reçu votre diagnostic?
Moi, c'était vers la fin vingtaine, parce qu'au début, comme beaucoup de gens, j'ai nié que j'avais une maladie, compter des menteries, bref, parce que c'est dur à accepter ça, ça je vous le dis.
Parce que vous êtes passé par la toxicomanie aussi, forcément, et souvent.
Je suis parti sur une dérape de plusieurs années, ça n'a pas aidé, là, je consommais, c'était épouvantable.
Ouais. Et souvent, c'est ça, c'est dans la vingtaine, au début de la vingtaine, fin de l'adolescence, que la schizophrénie se manifeste davantage aussi. Hein?
Oui, exactement, alors... chez les garçons, oui. Chez les filles, c'est vers 24-25 ans. C'est curieux, on ne sait pas pourquoi, mais c'est un phénomène, c'est ça. Donc, oui, c'est ça, moi, ça a été dans la fin de l'adolescence.
Et puis là, à un moment donné, vous vous êtes dit, finalement, il y a eu un contexte qui vous a amené, vous impliquer davantage. Et puis, vous avez quand même fondé des organismes aussi d'aide. Enfin, c'est vraiment tout un parcours là, que le vôtre.
Ben oui, exactement, parce que bon, comme vous le disiez, quand on est en dehors du bureau du médecin, on est tout seul, la famille aussi, donc. Puis à l'époque, les familles avaient des groupes d'entraide. Je me disais, pourquoi nous autres, on n'en a pas? j'ai créé un groupe d'entraide. Après ça, j'ai fondé une association provinciale pour amener le point de vue des personnes auprès du ministre, auprès des dirigeants des soins. Pour dire, vous savez, là, on n'est pas alité, là, nous autres, là,
non, mourants, c'est ça.
On est capable de faire des choses.
Et vous, comme vous le dites, l'État aussi est un peu timide aussi dans ses interventions encore. Oui. Alors ça, c'est tout à développer, mais ce qui est merveilleux, c'est que vous donnez espoir aussi aux parents qui ont des enfants, qui ont des problèmes comme le vôtre, enfin des problèmes de santé mentale. Vraiment, bravo, et vous allez continuer, là, donc c'est vraiment la démarche qui se poursuit, et puis votre implication au niveau de la recherche, au niveau de combattre aussi la stigmatisation. Merci infiniment, Luc Vigneault, d'être venu nous parler de ça.
Merci, M. Vigneault.
En terminant, je vous dis, j'ai un site web qui est lucvigneault.com.
Oui.
Je suis conférencier, formateur aussi, si les gens ont besoin de me contacter.
Oui, c'est très important, tout à fait. Ça, vous allez, conférencier, c'est vraiment une partie de votre travail.
Oui,
merci,
oui.
Et puis, effectivement.
Merci à vous, là. C'est gentil, puis bon été, là.
Merci.
Vous aussi.
Au revoir.
À vous aussi.
Merci, au revoir.